Bonjour à tous. Des artistes en création à Dakar, des installations sonores qui renvoient à l'identité de la capitale sénégalaise, un univers étrange fait de bouteilles plastiques et de calebasses. Sonotopia, c'est le nom de cette manifestation et ce sera un reportage d'Emmanuel Landé. C'est l'un des esprits les plus acérés parmi les intellectuels marocains. Son œuvre est régulièrement célébrée. Le poète Abdellatif Lahabi, récompensé cette semaine par le prix Mahmoud Darwish pour la liberté et la création. On vous en parle dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour commencer, on reçoit ce dimanche un réalisateur et documentariste, Kamal Ashkar, son portrait avec Florence Blanc.
Kamal Ashkar est né à Tinrir, de parents de confession amazigh et musulmane. Il a 6 mois quand il quitte le Maroc, avec sa mère pour rejoindre la France où son père a trouvé du travail. Pour le petit Kamal, le Maroc c'est le pays des vacances, la terre où l'on revient chaque été, le village où l'on déambule sous un soleil pesant et où l'on guette l'ombre des maisons en pisé. Des études d'histoire à la Sorbonne à Paris, une maîtrise en histoire médiévale sur les mondes musulmans, puis il commence par enseigner en région parisienne. Mais voilà, Kamal a envie de raconter des histoires, de travailler sur celles de son pays d'origine, de sa petite ville natale, les anciens quartiers juifs de Tinrir l'intrigue, le départ de toutes ses familles marocaines dans les années 60. En 2013, sorti de son premier documentaire « Tinrir, Jérusalem, les échos du Mella », un film récompensé dans de nombreux festivals. Le deuxième s'appelle « Dans tes yeux, je vois mon pays », récompensé par le prix spécial du jury au Festival national du film. Kamal Ashkar est l'invité de Bain de Culture.
Bonjour Kamal Ashkar.
Bonjour.
Dans tes yeux, je vois mon pays, votre deuxième documentaire, en suit l'histoire d'un couple, Neta et Amit. Ils ont une petite trentaine d'années, Neta est chanteuse, Amit est pianiste, ils vivent à Al-Quds, Jérusalem. Et l'un comme l'autre sont des petits-enfants de Marocains, de Juifs marocains. Cet héritage, c'est quelque chose de très fort chez eux. Ils les questionnent, ils les interrogent et ils font le choix de venir au Maroc, l'un comme l'autre, sur la terre de leurs ancêtres, pour partir à la découverte de leur passé familial, de leur histoire personnelle. Et vous, Kamal, vous les suivez avec votre caméra. Comment vous les avez rencontrés, ces deux personnages ?
En fait, je les ai rencontrés en 2012, juste un peu après la sortie de mon premier film, Tinrir Jérusalem, qui revenait aussi sur ce passé juif, mais c'est plutôt un film sur le passé, ce film-là. Dans tes yeux, je vois mon pays, c'est un film sur le présent et le futur. Et je m'apprêtais à avoir une projection à Jérusalem et à Ramallah à ce moment-là. Et quelqu'un avait partagé une vidéo de Neta El-Kayam sur les réseaux sociaux où elle chantait une très célèbre chanson qui s'appelle « Yaoumi » de Lynn Monti. Et tout de suite, j'ai voulu la rencontrer. Et quand on m'a dit que son père était originaire, enfin que son père était né à Tinrir, très vite, voilà, nous nous sommes rencontrés. Très vite, j'ai eu envie de faire un film sur ce couple.
Pour le coup, ça recoupe votre histoire personnelle, puisque Tinrir, c'est la ville de vos parents.
C'est la ville de mes parents et c'est la ville où je suis né aussi, parce que j'ai quitté le Maroc, j'avais 6 mois pour la France. Donc je suis né dans une maison en terre à Tinrir, effectivement.
Ils ont envie de venir au Maroc, mais en même temps, ils ont une appréhension. Ils ont beau avoir des ancêtres marocains, ils sont israéliens, ils ont peur d'être mal reçus. Et en fait, au final, c'est tout le contraire qui se produit.
Oui, je pense que c'est ce qu'ils disent dans le film, quand ils se sont retrouvés face au public marocain. Et évidemment, il y a un tel contexte socio-politique là-bas, où on doit avoir peur de la langue arabe, où on doit avoir peur de tout cela, qu'effectivement, ils avaient une appréhension légitime sans doute, et qui s'est très très vite diluée dans les rencontres qu'ils ont pu faire ici au Maroc, en se reconnectant finalement avec cette langue, avec cette terre de leurs ancêtres.
Dans le documentaire, on les voit donc arriver au Maroc. Ils se produisent notamment à Essaouira au moment du Festival des Andalousies Atlantiques. Donc, les images sont belles parce que là, pour le coup, effectivement, ils ont confié auparavant leurs appréhensions. Et on voit à quel point ça se passe très bien avec le public, à quel point il y a des échanges. On les voit aussi dans le cimetière juif d'Essaouira. Les images sont magnifiques. Hein. Mmh. C'est un cimetière en bord de mer et vous filmez cela.
Beau, ouais.
Amit, il veut se rendre à Tasga. C'est le village de ses grands-parents, c'est dans la région de Ouarzazate, après Aïd Ben Haddou. En fait, ce n'est plus Tasga, le nom a changé. Là aussi, on lui fait bon accueil, Tizgi.
Ouais.
Il cherche la maison de ses grands-parents, c'est compliqué, les habitants ont changé. En revanche, on lui indique l'emplacement de l'ancien cimetière juif. Alors, il faut se représenter ce que c'est. Hein. C'est au bord d'un ravin, il ne reste plus grand-chose. C'est un amas de
De
rochers,
pierre, ouais,
de
tout à fait.
pierres. Il discute avec les habitants qu'il a rencontrés. Et on lui dit, oui, mais c'est vrai, ce terrain, il est plus matérialisé, il n'est pas du tout délimité, les troupeaux peuvent le traverser. Ce serait bien, effectivement, de créer comme ça une délimitation. Alors, un mur, c'est peut-être un peu compliqué, mais alors lui, il va chez l'épicier du coin, il achète deux rouleaux de cordes. Et on le voit, avec l'aide de quelques habitants, comme ça, tendre les cordes, alors c'est vraiment une délimitation très symbolique, mais bon, elle est là. Ses cordes sont tendues, et puis on le voit assis sur un rocher, il est à côté d'un vieil homme, et puis tout d'un coup, il se met à pleurer. C'est une scène très touchante. Hein.
Oui, un mythe, quand la première fois on est allé tourner, on l'a tourné en deux temps en fait, Tisgi. La première fois où où il retrouve finalement cette maison, ça a été d'ailleurs un peu compliqué parce que savaient pas trop, ils arrivaient pas, le vieux personnage ne reconnaissait pas les grands-parents de Amit. Et très vite, quand Amit a entendu, est-ce que ce serait pas des gens qui venaient de Tigard, d'un autre village, et là ça a été le déclic, et très vite on a retrouvé même la maison où étaient installés les grands-parents de Amit. Et il a créé un lien incroyable avec ces jeunes du Maroc profond, ce Maroc intérieur, qui, sans préjugés, peu importe qu'il soit juif, israélien ou etc., etc., l'accueille comme un frère, comme un gamin, comme un enfant du village, et vont l'aider dans son envie aussi de réparer quelque chose de cet exil de ses parents et de ses grands-parents, en voulant symboliquement protéger ce cimetière face à cette histoire complètement dévasté, puisqu'il ne reste plus aucun juif, évidemment, à Tisgi. Là, c'est un descendant d'un de ses enfants de Tisgi qui vient se reconnecter de manière très concrète avec ses gènes et en ayant un vrai projet de vouloir rénover et de protéger surtout ce cimetière. Et évidemment, l'émotion, tout d'un coup, je pense qu'à ce moment-là, Hamid s'est rendu compte d'où il venait. De ce Maroc, c'est à côté, c'est entre Telouet et Ouarzazate, vraiment dans le Maroc profond, dans ce Maroc qu'on appelle souvent le Maroc inutile. Et tout d'un coup, il a visualisé ce qu'il dit, d'ailleurs, à un moment donné, quand ses grands-parents ouvraient leur maison, bah, ce qu'il voyait en face d'eux comme paysage, les gens avec qui il a retrouvé même des anciens qui ont connu ses grands-parents et qui l'ont même accompagné le jour du départ, en Palestine, comme ils disent les anciens là-bas. Donc oui, pour lui, ça a été un moment extrêmement fort et avec qui il a, jusqu'à aujourd'hui, gardé des liens très profonds et très importants avec ces jeunes de Tisgi.
Toutes les générations sont présentées, puisqu'effectivement, il y a ces vieilles personnes qui ont connu ses grands-parents, il y a lui-même qui a une trentaine d'années, puis il y a les gamins. Pour parler des gamins, il y en a un tout jeune avec qui il a vraiment
Mohamed.
voilà, Mohamed, et c'est très étonnant. Il est adorable ce gamin, il est tout petit, et il lui sert un peu de guide. Enfin, tout de suite, il y a une sorte de connexion qui se fait entre deux.
Oui, tout de suite. Puis on pourrait penser qu'ils sont frères aussi. Enfin, il y a une ressemblance. Même le premier Mohamed qui les emmène chez le vieux pour essayer de tenter de retrouver la maison. Oui, avec ce jeune Mohamed, il a créé un lien très particulier et très fort. Il y a cette très belle scène où Hamid lui dit, viens, je t'emmène à Al-Quds. Et le gamin lui dit, non, là-bas, il y a la guerre. Il dit, oui, tu as raison. Effectivement, ici, c'est le calme, le soleil et la sérénité. Donc, oui, il a gardé ce lien. Ils sont toujours en contact. Ils s'écrivent régulièrement. Et Hamid, quand il peut, va leur rendre visite souvent.
Amit et Netta, leurs origines marocaines, ils les portent en eux, ça les définit. Ils ont une grande sensibilité par rapport à cela. Ces origines, ils les revendiquent vraiment. Netta, par exemple, elle chante en arabe, vous le dites, hein, et dans le documentaire, quelqu'un le signale, quand on est israélien, déjà, le fait de chanter en arabe, rien que cela, c'est une forme d'opposition.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment construit mes personnages comme deux corps politiques qui vont à l'encontre un petit peu de l'image qu'on pourrait avoir à la fois des Israéliens, mais enfin, un Israélien d'extrême droite qui regarderait ça, où aujourd'hui, par exemple, la langue arabe n'est plus une langue officielle en Israël, où il y a une incitation aussi au racisme contre la minorité arabe là-bas, de voir, et elle le dit d'ailleurs, Netta, à un moment donné, que chanter en arabe est déjà un acte politique. Hamid dit que parler en arabe en Israël, c'est une forme d'opposition à ce qui se passe aussi là-bas. Donc c'est vraiment deux corps politiques qui se reconnectent avec leur être profond, avec qui ils sont. Ils sont amazighs, ils sont arabes, ils sont marocains, ils sont aussi israéliens puisqu'ils sont nés là-bas, mais il n'y a pas d'opposition pour eux. Tout ça s'additionne. Et c'est un peu le prolongement aussi de mes questionnements en tant qu'artiste, en tant que franco-marocain, où moi aussi, j'ai dû me confronter aussi à ces questions-là de l'entre-deux, comme eux. Ils sont aussi dans un entre-deux, donc je questionne aussi cet entre-deux et comment on fait quand on a cet entre-deux, est-ce qu'on essaie de le sublimer par quelque chose? Eux le subliment par la musique, moi j'essaie de le sublimer par les images et par le cinéma.
Par votre métier de documentariste, on va revenir sur votre histoire personnelle et sur le lien que vous pouvez avoir avec ces personnages, avec ces destins. On écoute, on fait une petite pause musicale, Kamal. On écoute Neta El Kayem. La chanson s'appelle Moual Nensa. La voix de Neta El Kayem, dans tes yeux, je vois mon pays, votre documentaire Kamal Ashkar, l'histoire de destin mouvementé, le déracinement, l'exil, l'histoire d'une blessure qui ne guérit pas, c'était déjà le thème de votre premier documentaire. Celui-ci porte sur la troisième génération et l'émotion, elle est encore là, très forte, très palpable. C'est étonnant effectivement quand on voit Hamid qui s'effondre face à ce cimetière, il n'a jamais vécu à cet endroit-là, mais tout d'un coup ça fait sens. En fait, c'est sans doute des choses qui sont enfouies en lui, qui ressurgissent, et tout d'un coup, il y a cette émotion qu'il ne peut pas contenir.
Oui, totalement. C'est le retour, ce qu'on pourra appeler le retour du refoulé, ou quelque chose dont il a été baigné dans son enfance par les récits de ses grands-parents, et tout d'un coup, il visualise quelque chose, et il répare d'ailleurs, elle le dit, Neta aussi, leur manière de réparer aussi ces blessures de l'exil, cette absence, ce déchirement à la terre, cet arrachement, ils le font en musique, pour redonner une voix à ceux à qui on n'a pas donné la parole, à ceux à qui on n'a pas laissé la chance de pouvoir choisir leur destin. Et pour eux, c'est une manière de réparer, en hébreu, on parle de tikkun, de réparer quelque chose dans ce monde.
Ils ont été le témoin d'une forme de vertige quand ont vécu leurs parents le fait d'abandonner le pays qui était le leur, le Maroc, où les juifs et les musulmans vivaient en paix, pour se retrouver dans un pays à des milliers de kilomètres de là, Israël, où juifs et musulmans se font la guerre. Mes grands-parents se sentaient mal, disent-ils, et nos grands-parents se sentaient mal, et le fait pour eux de revenir ainsi deux générations plus tard vers le Maroc, c'est donc une façon, vous le dites, de réparer. Quand Hamit arrive au Maroc, il explique qu'il a l'impression d'être un peu dans un film de science-fiction. Il dit « Où que mes regards se portent, les visages que je croise, on dirait ceux de mes grands-parents. » Ça se superpose, et ça le surprend énormément.
Oui, parce que eux, quand ils sont arrivés, enfin, ils sont nés à Netivot, qui est à 5 km de la bande de Gaza, et c'est une ville en périphérie d'Israël, qui est essentiellement peuplée de Marocains. Donc pour lui, et même pour Netan, quand ils ont eu une impression de déjà-vu. Enfin, ces visages, ils les connaissaient déjà, puisqu'ils ont baigné avec ces visages-là pendant toute leur enfance, les Benhamou, les Toledano, etc. Enfin, toutes ces familles juives marocaines qui vivaient à Netivot. Donc pour lui, c'est senti tout de suite. Ils se sont sentis à la maison, finalement, quand ils sont arrivés au Maroc. Et effectivement, pour eux, c'est une manière de retisser des liens. Et ce film, c'est aussi une manière de dire qu'il n'y a pas de fatalité à la grande histoire qui a séparé nos parents et nos grands-parents, et que mon acte artistique, en tout cas mon acte de film, c'était aussi de montrer ça, c'est-à-dire qu'on peut recréer des liens. Vous nous avez séparés dans les années 50-60, mais nous, la nouvelle génération, parce qu'on a un territoire en commun qui est la culture, qui est la musique, que nous partageons ensemble, on peut retisser quelque chose de nouveau pour le présent et pour le futur.
C'est pour ça que votre premier documentaire, vous dites qu'il portait essentiellement sur le passé, que celui-ci, vous vouliez parler du présent et de l'avenir. Hamid, quand il est dans ce village, donc Tisgit, et qu'il parle avec les habitants, il y a un vieil homme qui lui dit mais reviens, reviens, on te rendra tes terres, viens manger ton pain, lui dit-il.
Ouais, exactement. Donc ça aussi, je pense que c'est une jolie, c'est ce qui les ont profondément marqués, de voir à chaque fois à quel point ils étaient reçus très bien à quel point les gens leur disaient marhaba bikoum, vous êtes chez vous ici, et pour eux c'est quelque chose d'extrêmement fort, et qu'ils ont que ce vieux personnage dise ça à un moment donné, vous pouvez revenir, on va vous redonner vos terres, c'est aussi un joli pied de nez à ce qui se passe là-bas chez eux.
Neta, elle dit, j'étais censé venir de la Terre Sainte vers la Terre de la Diaspora, et au final, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Elle a le sentiment que la Terre de la Diaspora, c'est Israël, et que la Terre Sainte, c'est le Maroc. C'est aussi un petit peu le pays rêvé dont on vous a parlé quand vous étiez petit. C'est un pays un petit peu que l'on a fantasmé ou idéalisé.
Oui, aussi, et puis c'est aussi, là il y a quelque chose, il y a une idée un peu subversive, c'est-à-dire que beaucoup de compatriotes juifs marocains qui sont partis pour des raisons messianiques, pour des raisons religieuses, c'est-à-dire l'an prochain Jérusalem, où pour eux la terre de leurs ancêtres c'était là-bas. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a un inversement, que pour la nouvelle génération, la vraie terre, enfin la terre de leurs ancêtres, c'est le Maroc. Et c'est en cela qu'elle dit que c'est la terre sainte. D'où cette volonté pour eux de vouloir se reconnecter avec le village de leurs parents, avec aussi pour Neta, de manière très symbolique, la volonté d'avoir son passeport marocain. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez fort, parce qu'en général, on a ce genre de les gens, enfin les juifs ashkénazes veulent avoir un passeport allemand parce que c'est très pratique, etc., etc. Passeport marocain, il nous empêche de voyager dans beaucoup d'endroits.
Oui.
Mais voilà, symboliquement, de récupérer ces papiers qu'on a enlevés aussi à leurs parents et à leurs grands-parents, c'est un acte aussi fort, je crois.
Elle veut ce passeport marocain, mais au final, quand vous lui demandez c'est quoi votre patrie, elle ne peut pas répondre dans un premier temps. Elle est vraiment submergée par l'émotion, à tel point qu'en fait elle pleure et dit c'est trop intime, c'est trop personnel, je peux pas. Et puis après elle dit c'est peut-être un petit peu à l'eau de rose, romantique, mais ma patrie c'est mon homme, c'est mon mari et c'est mon enfant, où qu'il soit dans le monde, je me sentirai bien, et ma patrie ce sera là.
Ouais, c'est toujours compliqué de choisir un pays plus qu'un autre. Moi souvent on me posait aussi cette question, préfère la France ou le Maroc, c'est dur.
Et pourquoi choisir
déjà, effectivement, on peut prendre les deux, il n'y a pas besoin de choisir, effectivement.
اسمك دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم اللي عيني شافوا الدنيا شافوك يا أمي العزيزة
Voilà, la chanteuse Lynn Monti avec ce titre Yaoumi que vous évoquiez tout à l'heure, Kamal. La forte communauté juive au Maroc jusqu'au moment du départ, dans les années 60, ce que ces familles sont devenues, le souvenir qu'elles ont laissé ici au Maroc et le souvenir que ces familles conservent du Maroc de leur enfance alors qu'elles sont aujourd'hui établies en Israël. Vous en parliez déjà dans votre premier documentaire, vous continuez à dérouler le fil dans votre deuxième. Ce qui vous touche autant dans cette histoire, c'est parce que ça vous renvoie à la vôtre ? Ça résonne ?
Oui, ça résonne. C'est mes propres questionnements de jeune franco-marocain. Je suis né, comme je l'ai dit, à Tinrir. J'ai quitté Tinrir, j'avais 6 mois. Mon père était ouvrier en France depuis 68, donc je suis parti par regroupement familial, avec toujours ce lien avec le Maroc où chaque été je rentrais au bled, comme on disait, et qui était pour moi, c'était véritable voyage dans le temps, Et tout d'un coup, je me reconnectais aussi avec mes racines amazighes, avec mon amazérité, avec ma marocanité, avec ce vieux village en terre où je déambulais dans ces ruelles aussi. Et donc, il y avait quelque chose d'assez magique. Et donc, je me sentais une espèce aussi d'étrangeté à la fois en France, mais et aussi au Maroc, donc mon étrange étrangeté d'une certaine manière. Et pour moi, quand j'ai appris qu'il y avait des juifs au Maroc, c'était aussi une étrangeté. Donc il y avait tout de suite comme une forme d'empathie aussi dans de vouloir raconter aussi ces destins. Puis j'ai vécu aussi ces moments où on venait passer 2 mois l'été et on partait. On savait pas si on allait revenir l'année prochaine, revoir nos êtres chers, nos grands-parents, s'ils allaient toujours être vivants. Donc c'était toujours des adieux, des déchirements. Donc j'ai compris, enfin j'ai essayé de me mettre à la place de ces personnes à qui du jour au lendemain on leur dit, voilà, maintenant tu vas quitter ta maison, tu vas quitter les odeurs de ton enfance, tu vas quitter tes amis, tu vas quitter ton monde. Et comment tu survis à tout ça? Et voilà, et c'est ça qui est difficile, et c'est ça que je trouve très beau dans leur démarche à eux, c'est que ils réparent quand même une blessure béante, parce que quelqu'un qui a vécu pendant 30 ans à un endroit et qui tout d'un coup est arraché de cet endroit-là et se retrouve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un autre endroit qui a rien à voir, c'est terrible. Et certains s'en sont jamais remis d'ailleurs, certains sont morts même de chagrin d'avoir quitté une situation, d'avoir quitté leurs amis. Et moi, je suis sensible effectivement à ceux qui partent. Et voilà, et je pense que mon empathie pour les exilés, pour ceux qui partent, c'est aussi parce que ça fait aussi partie de mon histoire personnelle.
Dans votre premier documentaire de Tinrir à Jérusalem, les habitants Tinrir racontent, ils se souviennent de ces familles qui montent dans les bus pour partir, et puis cette ville qui se vide complètement. Et ils racontent qu'il y avait des gens qui pleuraient, des femmes en pleurs, effectivement, que c'était très difficile de s'arracher à cette terre natale. Sur la façon de réaliser vos documentaires, Kamal, vous souriez tout le temps, même en ce moment, vous êtes face à moi, et vous souriez pleinement, franchement. Ce sourire, c'est aussi le secret pour accoucher les pensées, hein, inciter les personnes à se lâcher, à se confier à vous. Ça doit aider, j'imagine, hein.
Oui, je pense, c'est une de mes grandes qualités, m'a-t-on dit, hein, effectivement, c'est que je crée un lien très vite de complicité, de confiance avec mes personnages. J'ai fait ces deux films et j'ai fait aussi un autre film pour la télé qui s'appelle Tassanou Tayrenou, qui est un film sur l'amour à travers les voix des femmes berbères, où je suis le parcours, enfin, de Mriridane Etraté, qui était une poétesse des années 20, avec Hadawake, enfin, comment ces femmes berbères chantaient l'amour sans tabou dans une société conservatrice comme le Maroc. Souvent, je vais filmer dans le Maroc profond. Et il y a souvent une méfiance à l'égard d'un micro, d'une caméra, une pudeur, surtout des femmes qui ne veulent pas être filmées. Et donc, bon, le fait que je parle aussi l'amazigh est un atout supplémentaire. Puis c'est ma manière d'être aussi, de créer un lien de confiance avec les gens pour qu'ils puissent effectivement accoucher comme avec un psychanalyste sur le divan.
Ça fonctionne plutôt bien. Dans votre premier documentaire, en tout cas, vous apparaissiez beaucoup à l'écran. La caméra vous suivait en permanence, quand vous alliez à la rencontre des témoins, on vous voyait réaliser les interviews. Dans celui-ci, ce n'est plus le cas. On ne vous voit plus du tout, si ce n'est peut-être un petit moment. Essaouira n'est à une difficulté de traduction. Elle vous appelle à la rescousse. Kamal, il est où, Kamal? Alors, vous rentrez dans le champ. Ça dure quelques secondes, enfin,
fraction de seconde,
très peu de temps. C'est un choix d'être passé comme ça d'un moment où vous étiez vraiment très présent et là vous êtes gommé.
Oui, je voulais, comme je continuais d'explorer cette même thématique, il y avait le danger de pas refaire le même film, parce que c'est vraiment, c'est certes la même. Beaucoup me posent, oui, mais vous retraitez encore la question. Alors, il y a des artistes, des écrivains qui pendant 10 livres vont parler de l'enfance ou de la solitude, enfin d'une thématique, mais qui peuvent la du de manière assez différente. Et je voulais, ouais, dans le parti pris de réalisation, effectivement, ou dans le premier film, c'est moi qui est à l'initiative de cette quête, de cette envie de cette enquête aussi, on peut le dire même en deux mots. Et là, j'avais envie de passer le flambeau à Neta et à Amit, mais je suis là, derrière la caméra, et je les guide d'une certaine manière. Voilà, le documentaire, c'est un mixte entre des mises en situation et laisser le réel aussi d'exister. Donc j'avais envie effectivement de m'effacer, mais mon empreinte, elle est là par les situations dans lesquelles je fais confronter mes personnages.
Kamel Ashkar, dans tes yeux, je vois mon pays, couronné par le prix spécial du jury au Festival national du film de Tanger, on l'a dit. Et maintenant, la suite des aventures, vous allez continuer comme cela, à le présenter dans d'autres festivals, puis on attend peut-être aussi une sortie en salle. Dites-nous tout.
Oui, en fait, il a fait sa première mondiale au Festival international de Marrakech. Là, c'est la deuxième sélection dans un festival. Donc c'est Et donc, mais je ne peux pas le dire encore, mais j'ai une première internationale dans un pays très lointain et un très très gros festival, l'un des plus gros festivals de documentaires. Donc je suis très content, mais je peux pas encore l'annoncer officiellement, on nous l'a interdit. Donc oui, le film va faire son chemin. Il est aussi coproduit par 2M, donc il sera aussi projeté à la télévision marocaine dans la case des histoires et des hommes créée par Reda Benjelloun.
Vous savez à quel moment?
En octobre prochain. D'accord. Normalement, octobre-novembre prochain. Et ensuite, oui, il y aura sans doute aussi une sortie en salle en France et dans d'autres festivals internationaux.
Bien, vous nous tenez au courant.
Bien sûr.
Dans tes yeux, je vois mon pays de Kamel Ashkar. Merci d'être venu dans Bain de Culture ce dimanche.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Voilà, vous restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Hommage à Abdellatif Lahabi, récompensé cette semaine par le prix décerné par la fondation Mahmoud Darwish. Nous sommes aussi à Dakar pour une expérience sensorielle, une expérience sonore des créations de quatre artistes. Un reportage signé Emmanuel Landé. À tout de suite.
Midi, bain de culture avec David Labo. David Labo, David Labo.
Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tous ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, peut-être à moitié fou.
Midi, à Rabat, 97.5.
Midi, bain de culture avec David Labo.
And tranquility to earth. Rod, go ahead.
Samir, Wissam et Adnan, le trio Joubran, le groupe arabo-israélien fervent défenseur de la Palestine. On se souvient qu'ils ont notamment mis en musique les poèmes de Mahmoud Darwish. Depuis la disparition de ce dernier, la fondation qui porte maintenant son nom décerne chaque année le prix de la liberté et de la création. Et parmi les trois artistes distingués cette année, cette semaine, le poète marocain Abdellatif Lahabi, le rappel de son parcours avec Julie Rosselin.
Abdellatif Lahabi est né à Fès. À l'indépendance du Maroc en 1956, il a 14 ans et il écrit déjà. Des études en lettres françaises à l'université de Rabat, en 63, il fait partie de celles et de ceux qui créent le théâtre universitaire marocain. 1966, Abdellatif Lahabi fonde la revue Souffle avec d'autres poètes marocains. Avec Abraham Sarfati, il crée aussi l'Association de recherche culturelle. C'est à cette époque qu'il s'engage au sein de la gauche marocaine. Son militantisme, il le paiera de 8 ans de prison de 1972 à 1980. Prix Goncourt de la poésie en 2009, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2011, Abdellatif Lahabi est l'auteur d'une œuvre poétique reconnue et célébrée dans tout l'espace francophone. Et il est l'invité de Bain de Culture ce dimanche.
Abdellatif Lahabi qui est venu dans Bain de Culture, c'était il y a bientôt 2 ans à l'occasion d'un récital de poésie donné au Salon du Livre de Tanger. Il y était accompagné par la violoncelliste Lola Malik que l'on entend en ce moment derrière nous. Abdellatif nous avait alors parlé de son dernier recueil de poésie, L'espoir à l'arraché. Parmi ses sources d'inspiration, la guerre en Syrie, ce conflit entre ce week-end dans sa 10e année et les propos du poète marocain sont hélas toujours d'actualité. Abdellatif Lahabi.
Chaque être humain aujourd'hui de par le monde ne peut qu'être blessé, touché au plus profond de lui-même par cette tragédie incommensurable et infinie. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Et sous nos yeux, et en même temps, qui nous rappelle de façon cruelle notre impuissance. On a beau élever la voix, on a beau dénoncer, eh bien, elle continue, et c'est des centaines de morts chaque jour, et c'est des enfants qui sont dans cette tourmente effroyable. Donc c'est une tragédie qui m'a beaucoup touché, qui m'a inspiré beaucoup de textes, notamment un texte que j'hésite à lire parfois, parce que je n'aime pas, disons, montrer mon émotion quand je lis. C'est un texte qui est consacré au petit Aylan de Syrie, ce petit enfant qui a été retrouvé mort, rejeté par la mer sur une plage turque. Voilà un des textes. Mais il y a aussi un texte avec lequel je termine ce récital, qui s'intitule « Comme un bœuf », où je me mets en scène, c'est-à-dire je déroule toute ma vie en 3 pages. Mon itinéraire, mon parcours d'homme et de combattant pour la liberté. Et justement, il a pour thématique l'espoir. Il commence comme ça, comme un bœuf qui refuse de porter des œillères. Je tire la charrue de l'espoir.
Vous nous avez parlé du conflit syrien qui effectivement ne peut plus désespérance. Cela fait des années, comme vous le dites, qu'on assiste à cette tragédie sans voir vraiment ce que l'on peut faire les uns et les autres, si ce n'est effectivement ces indignations régulièrement, mais enfin qui pour le coup sur le terrain n'ont aucune incidence. Mais vous terminez avec ce texte d'espoir quand même. L'espoir ne doit jamais s'arrêter.
Oui, mais en même temps, bon, comme dans tous mes livres, s'il y a une partie grave et parfois très grave, je dirais dans le ton, il y a aussi une partie prime sautière, où c'est plutôt l'autre tempérament qui est le mien, celui de, il y a un regard ironique, qui est capable même d'autodérision. C'est comme ça que je travaille. Je pense que, notamment, l'autodérision est un exercice très salutaire en littérature.
pour tout être humain, je pense, hein. Ouais. Savoir se moquer de soi-même. Vous vivez aujourd'hui en France, vous êtes régulièrement invité dans des manifestations littéraires, dans des médias. Le mois dernier, vous étiez invité dans un lycée de la région parisienne à Rambouillet. C'était lors d'une manifestation nationale baptisée le Printemps des Poètes. Cet établissement avait décidé de vous honorer. Une salle de l'établissement, un amphithéâtre, porte désormais votre nom. Vous avez dialogué avec des lycéens, ils vous ont questionné. Même chose à Tanger, vous avez rencontré une centaine de lycéens, d'étudiants qui avaient travaillé sur vos textes. Le fait de rencontrer comme cela la nouvelle génération, vous avez l'impression que la poésie, c'est quelque chose qui leur parle encore, ça résonne encore, la poésie, à l'heure des écrans, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où on a l'impression que les gens lisent moins, sont moins attachés à l'écrit.
En tout cas, elle a une résonance en eux, de ces jeunes, de ces enfants, beaucoup plus forte que chez les adultes, à l'évidence. Je crois que les enfants et les préadolescents sont extrêmement sensibles à la poésie, ça les touche. Parce que, justement, ils reçoivent ça au premier degré. Alors que chez l'adulte, il y a, disons, un passage par la raison, par la culture qu'il a acquise. Les enfants sont en train d'acquérir, justement, une culture, une sensibilité artistique. Et c'est vraiment un enchantement pour un poète, justement, de se retrouver avec des enfants en train de dialoguer sur des choses parfois très profondes. Que même les adultes parfois ne voient pas comme ça immédiatement. Et on peut être très surpris par ces questions prétendument naïves, mais qui sont d'un grand intérêt pour le poète.
Vous avez un exemple peut-être en tête, un souvenir, quelque chose qui vous avait particulièrement surpris?
Là, j'ai pas une mémoire de ces choses-là, mais je sais que j'ai souvent été très étonné. Je n'avais pas de réponse tout de suite et
désarçonné.
Et de nature, je suis quelqu'un qui dit immédiatement les choses. Je leur dis, je ne peux pas répondre à ta question. Il me faut du temps.
Et du coup,
ce que je peux te dire comme ça spontanément maintenant, dans une semaine, peut changer parce que j'aurais réfléchi. Donc,
c'est ce que vous faites justement. Ce sont des questions qui vous poursuivent après.
Oui, bien sûr. C'est pour cela que c'est important ce dialogue. Moi, je regrette amèrement le fait que les enfants de ce pays n'aient pas davantage d'occasion de rencontrer non seulement des écrivains, des poètes, des romanciers, des dramaturges, mais aussi des philosophes, des hommes de science, des cinéastes, des peintres, pour que chacun parle de son expérience. Pourquoi il va à la peinture? Pourquoi il va au cinéma? Pourquoi il va à la poésie? Et c'est ainsi qu'on peut éveiller, peut-être, faire éclore, en quelques-uns du moins, justement cette envie, cette passion de la création artistique et de la réflexion aussi.
Abdelatif Lahabine, il y a une dizaine d'années, dans un court essai, vous vous êtes interrogé sur votre condition d'écrivain. Le livre s'appelle « L'écriture au tournant », je l'ai entre les mains. Je vais vous lire un petit passage et j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Dans l'ère occidentale et surtout depuis l'époque des Lumières, le fait d'écrire va de soi. L'écrivain a acquis une fonction, s'est placé dans une position où le fait d'exercer son métier comme il l'entend s'inscrit dans une logique des besoins de la société. Le livre ainsi que tous les autres modes d'expression culturelle sont reconnus comme des valeurs en soi. Et un peu plus loin, vous dites « Pour un écrivain du Sud ou de la périphérie, la situation est tout autre. Écrire ne va pas de soi, comme je l'ai déjà dit. Souvent l'écriture est transgression. La place de l'écrivain dans de telles sociétés est donc hypothétique. »
Ben, je ne changerai pas une virgule.
J'entends bien.
Ni un point à ce que j'ai dit. Oui, on en est encore là. Malheureusement, enfin, la pratique littéraire ici au Maroc est un combat. C'est vraiment le parcours du combattant. Non seulement il faut écrire, avec toutes les peines que cela implique, mais il faut trouver un éditeur. Une fois qu'on a trouvé un éditeur, se pose le problème de la diffusion du livre, qui souvent ne dépasse pas les frontières du Maroc. Bah, on a l'impression d'écrire malgré tout dans un espace entouré de barreaux. Voilà quel est le problème. Bon, là, je n'incrimine pas seulement, disons, l'État, les pouvoirs publics, tout cela. Et, même si elles ont une responsabilité dans ce que je vais dire, il y a aussi le fait que le lectorat potentiel est limité. Non seulement il y a encore l'analphabétisme, mais même, disons, la partie qui a été alphabétisée n'a pas pour habitude de lire. Parce que, disons, dans les discours qu'on tient aujourd'hui sur les besoins des Marocains, etc., la culture n'est pas promue au premier rang, loin de là. Elle n'est pas perçue par la majorité des Marocains comme un véritable besoin, et même un besoin vital. Vital, pas biologique, mais pour l'esprit, pour la conscience humaine. Donc voilà le problème auquel on se heurte. Non seulement, disons, les institutions ne permettent pas à la littérature de fonctionner, d'être diffusée normalement, et pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, défendue à l'extérieur. Mais la société elle-même n'est pas apprêtée pour recevoir la littérature. Donc il y a un véritable exil intérieur que l'écrivain peut ressentir. Il a l'impression d'écrire finalement pour une poignée de personnes.
Abdelatif Labi, j'aimerais que vous nous lisiez juste la fin de ce petit essai. Je l'ai dit, vous vous interrogez sur votre condition d'écrivain, sur son utilité. Et après nous avoir fait partager vos doutes, voici votre conclusion. Alors c'est un petit peu long,
oui,
mais c'est très beau. Est-ce que vous voulez boire?
Le problème, c'est que je n'ai pas mes lunettes. Ah si, vous les avez? Oui. Non, ça ira. J'ai des lunettes de soleil, mais qui peuvent faire l'affaire. Souviens-toi de ces gestes que tu as connus dans ton milieu traditionnel de la ville de Fès. Quand dans ta famille, il y avait un deuil ou qu'on affrontait simplement une épreuve, ton père faisait préparer une grande quantité de pain qu'il allait ensuite remettre aux pauvres aux quatre coins de la cité. Ton écriture ne ressemble-t-elle pas à ce geste simple et sans ostentation? Ce qui sortira de tes doigts ne nourrira pas les affamés, ne rendra pas la vie à un enfant piégé par une bombe qu'il a caressé comme un jouet, ne convertira pas à la vertu les prédateurs de ce monde. Ton écriture ne ressoudera pas la planète, ne réduira pas les inégalités, n'empêchera pas les guerres, les purifications ethniques, morales et culturelles. Mais ce dont tu es sûr, c'est qu'elle ne sera jamais un mensonge qui s'ajoutera au mensonge, un tison de haine alimentant le brasier des haines, un ingrédient d'intolérance relevant les méfroids des intolérances, une action de spéculateur versé à la bourse des corruptions. Si tu écris, c'est par respect pour le pacte d'honneur que tu as signé avec toi-même dès ton réveil à la conscience. Le plus grand échec serait que tu puisses un jour perdre la face, ta face humaine. Et à la limite, bon sang, pourquoi te poses-tu ces questions? Pourquoi te tortures-tu à dresser tous ces bilans? L'écriture est pour toi comme une prière adressée à la vie, pour qu'elle continue à te visiter. Si tu écris, c'est parce que tu es encore vivant. Qui peut te le reprocher?
L'écriture comme forme de vie, comme preuve de vie.
Oui, j'ai justement un long texte où je donne des preuves de vie, où je montre en quoi l'écriture, ce sont autant de preuves de vie.
Tant qu'on avance, tant qu'on vit, on peut continuer à s'exprimer comme cela.
Et pourquoi la vie? Parce que c'est, malgré toutes les horreurs dont nous avons parlé, je dirais une formule qui est devenue presque banale aujourd'hui, c'est la vie est un miracle. C'est miraculeux, je le sais. Je sais que quand j'ouvre les yeux au matin, Et depuis longtemps, ce n'est pas seulement depuis que j'ai atteint l'âge qui est le mien aujourd'hui. D'ouvrir les yeux au matin, c'est un moment de bonheur. Dire, on découvre qu'on est vivant, on découvre le ciel, on découvre la lumière, on découvre l'aimer à côté de soi-même. On sait que l'on va se rendre pour commencer à travailler. Ils ont attrapé le minotaure du silence par les cornes. Et donc, moi, je suis un intégriste de la vie. Voilà. Pour moi, c'est une... De manière, c'est la seule belle aventure qu'on ait. Et puis surtout, quand on sait, on le sait, mais on l'oublie, que nous sommes un grain de poussière qui se promène dans un univers infini. Et dans ce grain de poussière, il y a tout cela. tout ce dont on vient de parler. Et donc c'est unique, c'est quelque chose jusqu'à plus en informé. Peut-être y aurait-il des formes de vie dans d'autres galaxies ou ailleurs, mais jusqu'à maintenant, rien n'est prouvé. On vit une expérience absolument prodigieuse et unique, malgré les barbaries que nous connaissons. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi ce qui combat la barbarie à l'intérieur de chacun de nous.
Abdelatif Labi avec nous dans Bain de Culture ce dimanche. Merci d'être venu nous rendre visite dans l'émission.
Ben merci à vous.
Et dans un instant, Sonotopia, un concours pour les installations sonores, le seul au monde à promouvoir ainsi de jeunes artistes passionnés par le son. Cette année, cela s'est passé successivement dans 3 pays différents, l'Iran, le Chili et le Sénégal. Dans 3 minutes, on vous parle du résultat à Dakar. D'ici là, voici Woodkid dans Bain de Culture.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees.
Nous sommes en ligne avec Dakar maintenant. Bonjour Emmanuel Landé.
Bonjour David.
Emmanuel, vous êtes l'une de nos correspondantes dans la capitale sénégalaise. Ce week-end se tient une manifestation culturelle. Pas comme les autres, les artistes ont travaillé sur les ambiances sonores que peut produire une grande ville comme Dakar.
Oui, ce projet s'appelle Sonotopia et on doit à une fondation allemande. La Fondation Beethoven pour l'art et la culture organise des résidences artistiques internationales dans 3 pays qui tournent principalement autour de l'identité sonore d'une ville. Qu'est-ce que ces bruits disent d'une ville? Et y a-t-il un autre message enfoui dans les sons? Cette année, 2 étudiants du Luxembourg et de l'Allemagne ont pu passer un mois à Dakar avec 2 artistes sénégalais pour créer des installations sonores.
Alors le résultat, on le découvre maintenant. Emmanuel, vous avez baladé votre micro autour des installations créées par ces différents artistes. On écoute votre reportage.
Ambiance dès l'entrée du centre culturel Cœur Tiosane. Vous quittez les pavés du trottoir pour arriver ensuite sur une grosse couche de sable. Des bouteilles en plastique, écrasées, jonchent le sol. Un son auquel les piétons ne font plus attention dans certains endroits de la capitale, tellement les déchets y sont omniprésents. C'est ce que recherchait Anna Karim Awan, artiste sénégalaise.
Je marche beaucoup dans la ville, dans les rues en fait, et je me suis rendu compte à un certain moment que je marchais sur beaucoup de bouteilles. Et donc, ça m'a intéressé de ramener ces bouteilles dans un autre contexte, de les enlever à ce contexte dans lequel elles sont devenues normales, dans lequel on n'y prête plus attention, et de les amener ici pour que les gens marchent dessus et créent ces sons qui vont peut-être les amener à réfléchir sur la façon dont on traite notre vie.
L'exposition nommée Sonotopia, les explorateurs soniques, est un projet de la Fondation Beethoven pour l'art et la culture, basée à Bonn. Il permet aux artistes européens d'explorer les sons d'une ville aux côtés de 2 artistes natales. Les bruits du quotidien sont transformés. Les installations sonores continuent dans la cour de la maison jusqu'à cette pièce, tout au fond. Des calebasses suspendues au plafond envoient de l'eau le long d'un fil vers des récipients au sol.
Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer une alchimie entre le son artificiellement créé et le son qui a été enregistré à Dakar, le son de l'identité de Dakar. Ces gouttes me rappellent plus ou moins mon casement natal.
Ce bruit, c'est celui de l'enfance d'Ismaël Adramé Colli.
Là, c'est la nature qui te parle. Essaie d'entrer en contact avec elle et de plus ou moins recréer une réalité qui vous parle à vous deux. C'est exactement ça.
Des aventures, des découvertes, des ovnis sonores sont installés dans les quatre coins du centre culturel. Un artiste du Luxembourg a installé des calebasses métalliques qui sonnent des sons de cloche. Un Allemand fait, lui, résonner des bidons en plastique au-dessus de baffles suspendus. Autant de sons atypiques liés à Dakar que de visuels hors du commun.
Voilà, les sons métalliques, ces sons métalliques qui sont produits par des calebasses. C'est assez étonnant, c'est assez particulier, Emmanuel.
Oui, tout à fait. En fait, la calebasse est revenue plusieurs fois dans les installations, comme on a pu l'entendre, grâce à sa capacité de résonance.
Et alors, il y a une suite, Emmanuel. Après le Sénégal, ces artistes vont présenter leur travail en Allemagne.
Oui, ils seront invités en résidence à Bonn, dans le courant de l'année, pour présenter leur travail et marquer le 250e anniversaire de Beethoven. Ce sera un peu le bouquet final. Les artistes qui ont travaillé sur la même thématique dans trois pays différents vont se retrouver. Ceux du Sénégal, donc, mais il y aura aussi un autre groupe qui a travaillé à Téhéran, en Iran, et le troisième au Chili.
Emmanuel Landé, notre correspondante à Dakar. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, David.
C'est avec Emmanuel que se referme ce numéro de Bain de Culture. Je vous embrasse. À distance, on a encore le droit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche.
Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people, where do